Naître dans un pays puis le quitter après 13 années, le virage n'est pas forcément aisé, surtout à l'adolescence. Inès est collégienne en 3e à Latte, dans l'Hérault, mais pendant 13 années, c'est au Maroc qu'elle a vécu, scolarisée dans un établissement français. Née d'une mère française et d'un père marocain, ses parents se sont quittés et du coup, elle est venue s'installer en France avec sa mère et sa sœur. Comment s'est passée son installation en France? Que lui reste-t-il du Maroc? Inès parle de son milieu, qu'elle dit favorisé, dans un Maroc toujours caractérisé par les inégalités sociales. Elle parle aussi de son besoin de retrouver un pays qu'elle a vu naître et où elle a gardé de nombreux amis.
Donc en fait au Maroc, je vivais pas loin de la capitale, j'étais à 40 km. Je vivais bien, j'avais pas mal d'amis. J'ai jamais tellement eu de problèmes au collège, donc tout allait bien sur ce plan-là. J'avais quand même une bonne moitié de ma famille là-bas, toute la famille de mon papa. Et donc ma famille évidemment, ma petite sœur qui vivait avec nous. Et un beau jour, mes parents ont décidé de divorcer, donc. Et ma maman, qui est donc de France, a décidé de revenir à son pays d'origine. Donc on a déménagé et on est arrivé à Montpellier.
Et alors l'arrivée à Montpellier, au-delà de la douleur, effectivement, la séparation de tes parents, on va peut-être pas rentrer dans le désordre affectif, mais parler de la France que tu connaissais peu, en fait.
Donc de la France, en fait, je ne connaissais que le village de mes grands-parents. Alors 200 habitants la dernière fois qu'on les a comptés. Donc pas grand-chose, en fait. Je suis arrivée à Montpellier, j'ai trouvé que c'était une très très jolie ville parce que c'est vraiment une belle ville et puis il fait beau. Je supporte pas le froid, donc ça c'est génial. Je suis pas loin de la famille de ma mère, donc il y a mes grands-parents qui sont pas trop trop loin quand même. Et bon, ça a été dur, ça c'est certain, parce que j'avais plus mes amis, j'avais plus ma famille. J'ai laissé bon nombre de choses au Maroc. Mais quand je suis arrivée en fait, j'ai été plutôt bien accueillie, donc je me suis fait plutôt tout de suite des amis en fait. J'ai eu la chance d'atterrir dans une classe où on m'a vraiment bien acceptée, bien intégrée. Donc je me suis fait des amis. On vit pas très loin, donc dans un appartement. J'ai pas de regrets. Je suis contente d'être ici en fait.
Et pourquoi alors tu es finalement contente d'être ici?
Parce que ça m'a beaucoup apporté au niveau personnel. Je veux dire, j'ai appris beaucoup de choses. J'ai appris à connaître de nouvelles personnes. J'ai découvert une ville que j'aime beaucoup. J'ai découvert le tram, qui consiste pour moi à la liberté totale. C'est pratique, un seul ticket, on va où on veut. Et puis, voilà, j'ai vraiment connu pas mal de monde. Donc, ça m'a beaucoup apporté, voilà.
Après, on peut peut-être parler de la différence de culture. Je ne sais pas après dans quel milieu tu étais là-bas au Maroc, mais est-ce que tu as senti vraiment des différences flagrantes de culture?
Bien sûr. Bon, alors là-bas, déjà, il faut savoir que j'étais quand même dans un collège français, avec des amis qui parlaient français. Donc, je baignais quand même dans la culture française. Mais comme j'étais au Maroc, il y avait toujours ces grandes différences. La religion, qui a quand même une bonne place là-bas. Je veux dire, en France, tout est différent. Le langage, la façon de penser des gens, la façon de vivre. Il y a certaines choses sur lesquelles on est ouvert, d'autres sur lesquelles on est plus fermé. Il y a beaucoup de différences.
Est-ce que tu penses qu'il y a plus de chances, maintenant que tu es dans le collège ici, à côté de Montpellier, à Latte, de parvenir à ce que tu veux faire dans la vie?
En fait, je dois dire que là-bas, on était dans un collège français qui a quand même un très bon niveau. D'ailleurs, tout le monde me disait qu'en arrivant en France, j'allais être dans un collège où j'aurais un moins bon niveau. Donc j'ai eu la chance de tomber dans une bonne classe, donc ça, je suis contente. J'avais des bons professeurs et il était prévu que pour le lycée, donc on passait tous à la capitale qui est Rabat, on devait aller dans un lycée qui lui aussi a un bon niveau. Et de toute façon, j'aurais après le lycée, donc je serais venue en France de toute façon faire mes études. Ça, c'est ce qui était prévu. Donc plus de possibilités, pas vraiment, parce que dans tous les cas, je pense que j'aurais fait à peu près la même chose. Je serais venue en France quand même. Bon, là, je suis quand même dans un bon collège. Je vais passer dans un lycée qui est proche de chez moi. Donc plus de possibilités, pas vraiment. Ça n'aurait pas changé grand-chose, en fait.
تقول انسى واقول اهين لو اقدر رغم طول النوى انسى تقولك سار واقول اللي شرب من عينك الاحساس ما يكسر احبك يا بعد هالقلب احبك احبك احبك.
Tu as la double nationalité, française-marocaine. J'imagine qu'il y a d'autres élèves marocains ici dans le collège. Est-ce que tu as un rapport privilégié avec eux ?
On est plutôt assez différents. Puis comme il y en a pas tellement dans ma classe, En fait, je suis restée assez avec des amis que je me suis fait tout de suite donc dans la classe. Et je suis pas souvent avec d'autres personnes d'origine marocaine en fait dans le collège. On a des points de vue différents, on pense différemment, et j'ai pas tellement appris à les connaître en fait.
Parce que eux, ils baignaient pas dans le même univers social ou culturel.
Non, pas du tout en fait. Moi, j'étais dans un collège français. Je vivais de façon plutôt aisée en fait, parce que mon papa est médecin, ma maman gagnait bien sa vie. On n'a pas du tout été éduqués pareil, pas du tout élevés pareil. On ne pense pas du tout de la même façon. On est tous différents en fait, et je me suis pas vraiment rapprochée de ces gens-là.
C'est pas un besoin. Alors quel est ton lien avec le Maroc dans lequel t'as quand même vécu 13 ans ? Qu'est-ce qui te permet de retrouver le Maroc ? Ou peut-être que t'en as pas besoin d'ailleurs.
Bien sûr que j'en ai besoin, parce que j'ai quand même tous mes amis, tous mes parents, enfin pas tous évidemment, j'ai la moitié de ma famille là-bas, que j'aime énormément, donc j'y vais aux vacances, soit mon papa vient, soit nous... On y va aux vacances, donc je revois tous mes amis, ma famille, etc. Le Maroc, j'en parle tout le temps, parce que c'est vrai que je fais la différence entre les cultures, la façon de s'habiller, la façon de parler, etc. J'en parle très souvent, parce que c'était quand même un souvenir douloureux d'une part, mais heureux d'un autre côté, parce que ça m'a apporté pas mal de choses. Donc ce contact avec le Maroc, je le garde pendant les vacances, en fait. Et puis je suis toujours en contact avec mon papa et certains de mes amis.
Et est-ce que tu changes ton rapport au monde et ta manière de te comporter quand tu retournes au Maroc ? On parlait des différences culturelles. Est-ce que ça compte ? Est-ce qu'une fois que tu es arrivé en France, finalement, il n'y a pas, au niveau peut-être des mœurs, ou est-ce qu'il n'y a pas une espèce de libéralisation ?
Disons que moi, j'ai énormément changé. Vraiment beaucoup, beaucoup. Parce que là-bas, j'étais une fille plutôt coincée. En arrivant en France, bon, tout a changé dans ma vie. Donc, j'ai tout changé moi aussi. Quand j'y retourne, c'est sûr que j'ai une façon de voir les choses complètement différente de celle que j'avais avant. Mais je n'adapte pas ma façon de penser ou ma façon de me comporter selon l'endroit où je me trouve, en fait. Je l'adapte plutôt aux personnes avec lesquelles je suis, parce qu'il faut choquer personne et il faut se sentir bien avec les gens. Je veux dire, mes anciens amis, c'est sûr, mes amis que je connais donc depuis au moins 13 ans, quoi. J'ai des amis qu'on s'est rencontrés à l'âge de 2 ans et quelques. J'ai un rapport avec ces gens-là qui est différent des personnes avec lesquelles je suis aujourd'hui, puisqu'elles sont françaises. Mais même s'ils pensent différemment, même s'ils voient les choses différemment, il faut s'adapter. C'est sûr qu'en France, pour bon nombre de Français, le Maroc, ça se résume à un couscous et à un grand soleil. Donc voilà, il faut savoir que le Maroc a une culture, c'est un pays qui a une histoire, qui a connu son heure de gloire, qui mérite qu'on s'y intéresse en fait. Bon, quand je retourne au Maroc, la France n'est pas forcément dans tous les esprits. Quand je dis la France, on n'a pas forcément une idée précise de ce que c'est. On ne peut pas résumer un pays à un mot, ou on ne peut pas résumer le Maroc à un couscous, on ne peut pas résumer la France à la Tour Eiffel par exemple. Il faut savoir qu'il y a des cultures, qu'il y a des histoires, et c'est intéressant de les connaître. Les religions aussi, qui sont différentes, il faut apprendre à les connaître, voilà, il faut s'adapter à ça. On va
parler un tout petit peu de la condition des femmes, puisque on a tendance à penser, nous, ici, en France, que la condition des femmes dans les pays du Maghreb, la condition n'est pas comparable à celle des Françaises. Parfois, les personnes qui viennent du Maghreb, justement, se sentent libres en France, libres de sortir le soir, notamment, de coucher du soleil, d'être dehors sur une terrasse à siroter ce qu'elles ont envie de siroter. Est-ce que toi, tu as été témoin de ça ?
Bien sûr, il y a une différence, mais ça c'est pareil, ça dépend de la façon de penser, ça dépend du milieu social dans lequel on évolue. Il y a des différences entre les hommes et les femmes, c'est sûr, mais elles sont plus marquées dans les milieux défavorisés, on va dire, que dans les milieux aisés. Je sais que lors des mariages, par exemple, ça ce n'est qu'un exemple, les femmes sont à part et les hommes sont à part. Ça, c'est comme ça, ça n'est pas prêt de changer, je crois. Mais c'est pareil, il y a toujours des gens qui font les choses différemment, qui essaient d'avancer, quoi. Un autre exemple, aux terrasses des cafés, on ne trouvera jamais une femme, parce que tous les hommes sont assis et regardent la rue. On se demande ce qu'ils regardent, mais voilà. Donc, il n'y aura jamais une femme assise à une terrasse de café, ou alors tout le monde va la regarder avec des yeux ronds jusqu'à ce qu'elle s'en aille. Il y a des choses comme ça, c'est sûr, mais il y a beaucoup de personnes qui ont désormais une culture assez européenne, je veux dire. Le protectorat français a laissé ses marques. Et qui vivent d'une façon libre. Il y a encore beaucoup de femmes qui doivent rester chez elles, qui sont victimes de différences. Voilà. Mais ça, c'est pareil, ça dépend du milieu dans lequel on évolue. Vraiment, ça dépend complètement.
Toi, par exemple, tout comme tu peux aller boire un verre sur la place de la Comédie à Montpellier, là-bas, dans ta ville, tu allais aussi le soir boire un verre ? Peut-être que tu étais jeune.
J'étais assez jeune, donc je ne sortais pas vraiment le soir. Puis j'habitais à un quart d'heure de la ville, donc en général, quand je sortais, c'était pour aller chez des amis, surtout. Je ne sortais pas tellement, parce que j'étais aussi une fille coincée, voilà. C'est sûr que là-bas, je me suis jamais assise à la terrasse d'un café. De temps en temps, j'allais prendre le petit déjeuner avec mon papa le matin, quand il devait me déposer à l'école ou que j'avais un cours ou autre. Donc là, on entrait tous les deux dans le café, on prenait le petit déjeuner, puis après, il me déposait au collège, mais à l'intérieur du café. Voilà, j'aurais pu être sur la terrasse, mais ça aurait gêné tout le monde, je pense. Alors, quand on devait aller prendre une glace ou n'importe quoi, en général, on rentrait, par exemple, au McDonald's ou quelque chose comme ça. On se mettait jamais sur les terrasses.
Alors Inès, en fait, toi, tu es absolument satisfaite de ta situation, de cette double nationalité et de ces allers-retours en fait que tu fais entre la France où tu vis la majeure partie du temps et le Maroc que tu revois à l'occasion des vacances.
Bah oui, c'est sûr, parce que ça permet de respirer, de changer d'air, de vivre différemment l'espace de quelques jours. Ça fait toujours plaisir en fait de revoir ses amis, sa famille, etc. Maintenant, je suis heureuse en France parce que c'est une jolie ville, parce que j'aime beaucoup les gens que j'y ai rencontrés, qu'ils m'ont apporté beaucoup. Je suis heureuse comme je suis et là où je suis.
Alors, du point de vue de la cuisine, on sait que la cuisine française et la cuisine marocaine, c'est pas la même. On a parlé du couscous tout à l'heure, mais bon, ça se résume pas qu'au couscous. Là, ici, à Montpellier, il y a une forte communauté marocaine. Il y a moyen de trouver des aliments pour préparer la cuisine marocaine. Est-ce que c'est le cas ? Est-ce que ça te manque ? Est-ce que tu continues à manger marocain ? Ou déjà, est-ce que tu mangeais marocain quand tu étais au Maroc ?
Bien sûr, donc je mangeais marocain, parce qu'il faut savoir qu'ici, une femme de ménage, ça coûte très cher. Là-bas, je veux dire, toutes les familles qui, à peu près aisées, ont une femme de ménage. Donc, celle que j'avais, qui était très très gentille, qui cuisinait très très bien, nous faisait souvent des couscous pour le goûter, des crêpes marocaines ou des mlaoui, des hachas, enfin tout ça c'est des plats typiquement marocains, donc on adorait ça. Et en France, c'est sûr qu'on n'a pas retrouvé tout ça, parce que ça se trouve pas nécessairement dans le commerce. Quand ça se trouve dans le commerce, c'est jamais aussi bon, évidemment. Il y a beaucoup de différences. Et puis je veux dire, moi je mange au CF tous les midis, et quand ils nous disent couscous, on dit au malheur. Voilà, alors moi j'ai jamais vraiment aimé le couscous en fait, enfin pas aux légumes en tout cas, je l'aimais aux raisins. Je mange plutôt français en fait maintenant, parce que comme je vous l'ai dit, c'est assez difficile. De temps en temps, maman fait des tagines, donc c'est des plats qu'on fait dans des grands plats en percute. Enfin, bon, nous, on n'a pas de plein de percute, c'est sûr. Mais ça fait toujours plaisir de manger comme là-bas. La différence, il y a une grosse différence entre la cuisine française et la cuisine marocaine. On ne peut pas dire que l'une est plus saine que l'autre. En fait, ça s'est diversifié.
Alors Inès, ton rapport à la religion, comment ça s'est passé? Est-ce que tu es chrétienne, musulmane ou athée?
Donc la loi, vu que j'ai un papa marocain, vu que l'État marocain est un État musulman, c'est obligé par la loi, donc voilà, je suis obligée d'être musulmane. Personnellement, j'ai pas peur de dire que j'y crois pas en fait. Donc je n'ai jamais pratiqué ma religion, en tout cas celle qui m'est légalement attribuée. Je n'ai jamais prié, je n'ai jamais fait le ramadan. Moi, j'ai surtout profité des petits gâteaux pendant le ramadan, mais mon rapport à la religion n'a pas tellement changé parce que ce soit ici ou là-bas, je ne l'ai jamais pratiqué. C'est sûr que là-bas, il y a beaucoup de personnes, je veux dire, pendant le ramadan, on n'a pas le droit de dire des gros mots, enfin de s'insulter, quoi. On n'a pas le droit, évidemment, de manger avant le coucher du soleil, on n'a pas le droit de boire, etc. Il y a beaucoup de gens qui ne font pas vraiment le ramadan parce qu'ils y croient, ils le font parce que tout le monde le fait. Alors, il y a beaucoup d'hypocrisie. Moi, je ne l'ai jamais fait. J'ai jamais eu peur de dire que je n'y croyais pas, en fait. Voilà. Mais c'est sûr que quelqu'un en plein ramadan qui se balade dans la rue en mangeant, il craint un peu. Il y a une année où le McDonald's, par exemple, on avait lancé des pierres et on avait cassé une vitre comme ça. Enfin, des gens avaient lancé une pierre et on avait cassé une vitre comme ça parce que c'était le symbole des Américains, donc, et qu'en plein milieu de la journée, des gens déjeunaient au McDonald's.
Et toi, tu faisais comment alors si tu voulais pas respecter le ramadan?
On est obligé de le faire, en fait, qu'à partir du moment où on est pubère. Voilà. Donc, comme moi, j'étais jeune, j'étais dans un collège français où tout le monde ne le faisait pas non plus. Donc, voilà. Moi, ça m'a pas dérangée parce que je suis dans une famille, j'ai toujours vécu dans une famille libre, donc on m'a toujours laissé penser et faire ce que je voulais. J'avais pas besoin de faire semblant parce que tant que je n'étais pas pubère, le jour où j'ai été pubère, ma famille, en plein milieu d'un dîner de famille, on s'est tourné vers moi, on m'a dit « Est-ce que tu fais le ramadan ?» Tout le monde s'est arrêté de parler, tout le monde m'a regardé. Là, j'ai dit que non et puis c'était fini, quoi, voilà. Ça, c'est pas aller plus loin, donc moi... Évidemment, c'est une question de respect. Après, j'ai jamais mangé devant mes camarades qui, eux, jeûnaient, parce que c'est très dur d'aller au collège, de travailler en jeûnant. Et je n'ai jamais rien fait qui puisse aller à l'encontre de ceux qui ne pouvaient pas manger dans la journée, quoi. Voilà.
Eh bien, merci beaucoup, Inès. Et donc, bon courage pour les études, puisqu'on le rappelle, tu es en troisième au collège Georges Brassens de Latte, à côté de Montpellier. C'était un entretien avec Inès, franco-marocaine, qui n'aime pas le couscous et qui vit maintenant à Montpellier, où selon les indiscrétions du collège, elle serait une des meilleures élèves, si ce n'est la meilleure. Une rupture avec son pays de naissance qui n'a eu aucune incidence sur son parcours scolaire. Les musiques que vous avez pu entendre, l'orchestre populaire Zala Zala, Kadim El Sahir et Gnawa June Experience.